nzamba
nzambira samirana
Nous sommes le vendredi 13 août 2021. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Agathe Kakaoué. C'est le moment du journal en français, donc voici d'abord les principaux titres. Un représentant communal du parti d'opposition CNL à Guiharo a été arrêté hier par la police. Les militants de ce parti crient à la persécution. La Covid-19 se répand à un rythme inquiétant au Burundi. 34 des 47 districts sanitaires du pays sont désormais touchés. Le docteur Jean Minani, ancien ministre de la Santé publique, appelle le gouvernement à fournir plus d'efforts dans la lutte contre cette pandémie. Et puis, les organisations syndicales sont mécontentes. Elles constatent avec amertume la persistance des disparités salariales au sein de l'administration publique. Cela malgré l'existence d'accords signés en avril 2015 pour corriger ces disparités. Voilà pour le sommaire de ce journal. À la présentation, Valérie Mucho. Madame, Monsieur, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons par cette nouvelle brève. Un homme âgé de 55 ans de la commune Mongere de la zone Mivo, c'est à Ngozi, au nord du pays, a été tué à coups de poignard par un inconnu dans la soirée de ce jeudi. La victime a été identifiée sous le nom de Anselm Nsazimana. De sources policières, le drame se serait produit vers 19h30 à son domicile. Les mêmes sources indiquent que son épouse et son fils ont été également blessés lorsqu'il tentait de le secourir. Après le forfait, le criminel a pris le large et les deux personnes blessées ont été évacuées vers l'hôpital de Mivo pour des soins médicaux. Et la victime, elle, a été admise à la morgue du même hôpital. D'après les témoignages des voisins, les litiges fonciers seraient à l'origine de ce meurtre. La police est déjà sur les pistes d'enquête pour retrouver l'auteur du crime, selon les sources sur place. Arrestation du représentant du parti CNL dans la commune Guiharo, c'est dans la province Sultana, dans le sud-est du pays. Selon des témoins, Jean-Pierre Ndaïsaba a été appréhendé hier jeudi sur la colline Butezi, puis tabassé sérieusement par une cinquantaine de miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Son frère, lui aussi militant de ce parti d'opposition CNL, est écroué depuis mercredi dernier au cachot du commissariat à Guiharo. Les sympathisants de l'opposant Agathon Gwasa, le chef du CNL, crient à la persécution. Les précisions de Josephine Jones Munzimana.
Le responsable du CNL en commune Guiharo, sous cachet depuis mercredi soir, après avoir été victime d'une agression physique de la part des jeunes du CNDD-FDD, selon des sources sur place. Lui et ses amis avaient en effet été pris en embuscade par les mêmes jeunes du parti présidentiel alors qu'ils rentraient chez eux vers 20h. Ils avaient alors subi des jets de pierre, selon la même source. Jean-Pierre Ndaïsaba était parvenu à s'échapper, mais les agresseurs ont arrêté son frère. Ils l'ont roué de coups avant de le mettre au cachot du commissariat communal de police à Guiharo. Les représentants du CNL en province Lautana dénoncent un acharnement contre les militants de ce parti et réclament la libération de ces personnes. Ils rappellent que deux membres du conseil communal de Guiharo, issus de la même formation politique, sont écroués depuis mai dernier. A précisé qu'Adelin Kaboura, membre du comité de ce parti CNL en zone Guiharo, avait été retrouvé mort sous le pont de la rivière Mukadzie, séparant les zones Gakungu et Guiharo. C'était le 20 mai de cette année. Selon des sources au sein du parti d'Agathon Gwasa, deux présumés auteurs du crime avaient été libérés sur ordre du responsable du parti au pouvoir. Ces militants du CNDD-FDD avaient pourtant avoué leur responsabilité dans ce meurtre, regrettent les mêmes sources. Nous n'avons pas pu avoir la réaction du responsable du parti CNDD-FDD à Guiharo pour qu'il donne sa version des faits. Nous avons cherché également les réactions de l'administrateur de cette commune et du porte-parole de la police, mais sans succès.
Et puis le mouvement des femmes et filles pour la paix et la réconciliation au Burundi déplore l'arrestation et l'emprisonnement d'Evelyne Kamikazi. Elle a été arrêtée il y a plus de 20 jours sur la colline Mota de la commune Mugamba. Elle est accusée par le commissaire de police dans cette commune d'être l'épouse d'un soldat ex-FAB qui a pris le chemin de l'exil en 2015 au début de la crise sociopolitique qui secoue le pays. Evelyne Kamikazi serait pour le moment emprisonnée dans le cachot des services de renseignement à Bujumbura. Selon Hunja Immaculée, représentante légale de ce mouvement, la détention de Madame Evelyne est contre la loi parce qu'aucune infraction ne lui est reprochée. Elle demande la libération immédiate de cette femme. Écoutons Maître Immaculé Runja.
Notre constat est qu'aucune infraction ou crime personnel n'est reproché à Madame Evelyne Kamikazi. Son arrestation et sa détention violent de manière flagrante toutes les conventions internationales de protection des droits de l'homme ratifiées par le Burundi. Elle viole aussi la Constitution nationale qui dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale. Elle viole aussi les dispositions du Code pénal burundais qui stipule que la responsabilité pénale est personnelle et que nul n'est punissable qu'en raison de son propre fait. C'est pourquoi, n'ayant aucune responsabilité personnelle dans les faits qui lui sont reprochés, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande au gouvernement du Burundi et à la justice burundaise de respecter constamment toutes les dispositions légales de protection de la dignité, de l'égalité de tous devant les lois nationales. Nous demandons, par voie de conséquence, la libération immédiate de Madame Evelyne Kamikazi, car elle est innocente, elle n'a aucune responsabilité dans les faits pour lesquels elle a été arrêtée et détenue jusqu'à ce jour.
Un Congolais a été obligé de payer des pots de vin pour vendre sa parcelle située à Buterere, un quartier de la ville de Bujumbura. Les étrangers n'auraient plus le droit de vendre ou d'acheter des propriétés au Burundi, ce que les Congolais de cette localité ne comprennent pas. C'est un reportage signé Beni Axelakana.
La vente de la parcelle du Congolais Kilongo a eu lieu mardi le 3 août au quartier 2B zone Buterere. Il s'apprêtait à conclure la vente lorsque les administratifs à la base lui ont expliqué qu'en tant qu'étranger, il n'a pas le droit ni de vendre ni d'acheter une parcelle. Un membre de sa famille indique qu'il a dû payer une somme de 400 000 francs burundais pour bénéficier ce droit.
On a été surpris lorsqu'on a refusé la vente de la parcelle sans d'abord donner les 400 000 francs. Notre oncle était dans un besoin urgent de l'argent. Les administratifs, à la base, ont exigé la somme au moment de déposer les signatures sur le document de vente. Il n'y avait pas d'autre choix que celui d'accepter. La suite a donc été facile.
Les Congolais habitant dans la zone de Buterere demandent aux autorités compétentes de suivre de près cette affaire.
Notre ambassade du Congo au Burundi en serait informé que les Congolais n'ont plus droit de vendre leur parcelle. Ceci montre que les 16 administratifs à la base du quartier 2B Buterere utilisent le nom du président de la République pour intimider les Congolais. Que les auteurs soient poursuivis à la justice pour être jugés.
La rédaction de la radio Inzamba a voulu joindre par téléphone le chef de quartier 2B, Viamungu Eli, pour qu'il s'explique sur ses accusations, mais il a directement coupé la conversation juste après lui avoir expliqué le but de l'appel. Quant à Serge Ategekimana, chef de zone Buterere, il a préféré garder le silence. Pour rappel, dans le journal de la radio Inzamba du 30 décembre 2020, les mêmes administratifs à la base du quartier 2B Buterere avaient été accusés de faire payer aux acheteurs et vendeurs des parcelles une commission de 200 000 francs chacun.
Ce vendredi 13 août 2021, c'est le 17e anniversaire des massacres de plus de 150 personnes de la communauté Banyamulenge, un massacre qui a eu lieu dans la zone Gatumba près de la frontière avec la RD Congo. Les rescapés de ce massacre qui avait été revendiqué à l'époque par le porte-parole du mouvement rebelle FNL déplorent l'inaction de la justice burundaise et de la justice internationale pour mettre toute lumière et punir les coupables de ce massacre. Ils espèrent que tôt ou tard, justice leur sera rendue. Écoutons un de ces Banyamulenge. Il s'agit de David Munyamahoro, il est le président de la Fondation Gatumba.
À Bujumbura, il y a eu commémoration, sauf au site mémorial, qu'il y a eu quelques représentants des familles victimes qui étaient déposés les gerbes de fleurs, sauf dans les camps des réfugiés des Assouves. Là où l'administrateur a interdit qu'il y ait commémoration, la lettre est libérant que c'est sur ordre de la hiérarchie. En fait, c'est vraiment la négation de fait. Aussi, c'est pour dissimuler les preuves. Il n'y a pas quelques mois, on a effacé les écrits qui étaient sur le site mémorial. Et la semaine passée, on voulait nettoyer le site mémorial. Les personnes qui étaient au site pour faire la propriété, il y a eu interdiction de l'autorité locale. En fait, c'est la négation des faits. Et surtout que nous pensons que c'est influencé par le président auteur. Bien avance sur le processus de rendre justice aux victimes. Mais néanmoins, nous avons déposé la plainte il y a des années et des années. Et le dossier a été ouvert au parquet général de la République. Mais rien n'avance. Ça fait longtemps, les rescapés ont déposé la plainte à la Cour pénale internationale. Mais curieusement, les victimes n'avaient pas la qualité. Le lendemain du massacre de Gatumba, massacre sélectif de Gatumba, il y a eu une déclaration des plaintes par les porte-parole du pasteur Alimana. Et la plainte était portée au nom de Rwasa, contre Rwasa et pasteur Alimana, mais le dossier n'avance presque pas. En fait, nous faisons toujours la lutte, hein, jusqu'à ce que la justice du Burundi et la justice de la communauté internationale soient rendues.
Inzamba.
Les organisations syndicales signataires de l'accord du 10 avril 2015 concernant la correction des disparités salariales au sein de l'administration publique burundaise trouvent que le gouvernement burundais n'est pas encore à l'œuvre pour remédier à ces disparités salariales. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Emmanuel Machandari, le président du syndicat CONAPES, a indiqué que des écarts de salaire persistent en faveur de certains fonctionnaires des différents secteurs publics. Je propose d'écouter Emmanuel Machandari.
Cette étude a révélé des écarts énormes de salaire qui ont été provoqués par les primes d'indemnité octroyées à certains secteurs au détriment d'autres et à certains statuts spéciaux qui se sont écartés du statut général des fonctionnaires. Pour restaurer l'ordre dans la gestion de la carrière des fonctionnaires, l'étude propose le retour à un statut unique à travers la classification et la cotation des emplois, ainsi que la détermination de la valeur du point emploi. L'étude suggère une adaptation progressive dans le temps de cette valeur en fonction du coût de la vie. Pour éviter de nouvelles spéculations sectorielles, l'étude a fixé les éléments du salaire, à savoir la part indiciaire qui dépendra de la qualification exigée pour occuper tel ou tel autre emploi pour les nouveaux, et le salaire de base actuel pour ceux qui sont en activité. La part emploi, qui est une rémunération conséquente à l'emploi occupé. La part allocation familiale, qui sera déterminée plus tard. En plus de ces éléments, l'étude propose une part performance, qui sera un complément ponctuel de salaire, du fait qu'il sera versé en un seul lot annuellement, en fonction des performances réalisées par chaque fonctionnaire.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie. Il est important de savoir que les personnes vaccinées peuvent être contaminées et peuvent contaminer à leur tour les autres.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Dans le domaine de la santé, la pandémie COVID-19 est active sur le territoire burundais. Cela transparaît dans le rapport du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida publié ce jeudi. Le rapport montre que sur les 47 districts sanitaires que compte le territoire burundais, 34 sont déjà touchés. Le ministère demande aux autorités de sensibiliser sur les mesures barrières et recommande de mettre à jour le plan de réponse pour intégrer le pilier vaccination. Le point avec Blaise Nijimbere.
Le rapport montre que jusqu'à ce mercredi 11 août de cette année, sur 47 districts sanitaires qui comptent le Burundi, 34 d'entre eux sont déjà infectés du COVID-19. Les plus touchés enregistraient chacun plus de 100 cas à cette date. Ces districts sont Kirundo dans la province de Kirundo, Kiremba dans la province Ngozi, Muyinga dans la même province de Muyinga, ainsi que le district de Bujumbura Nord. Les districts de Rutana, Gihofi, Ruyigi, Nyabikere, Mutaho, Isare et Bujumbura Sud comptaient chacun entre 50 et 99 cas. Le constat, selon toujours le rapport, c'est que les cas de contamination ont augmenté ces 4 dernières semaines. Le taux de positivité au niveau national a connu une augmentation de 4,81 cas, alors que jusque-là, le taux moyen était de 1,53%. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande aux autorités de sensibiliser la population sur les mesures barrières et la prise en charge des cas. Il demande également de mettre à jour le plan de réponse pour intégrer le palier vaccination. Vous saurez que depuis le 31 mars 2020, quand on a découvert le premier cas de COVID-19 au Burundi, jusqu'à ce mercredi 11 août 2021, 9612 cas ont été testés positifs au COVID-19, parmi lesquels 10 décès.
Cette situation inquiète selon le docteur Jean Minani, ancien ministre de la Santé publique. Il interpelle le président de la République à prendre en main cette question parce que des milliers de Burundais sont en train de mourir. Le docteur Jean Minani.
Ce qui est terrible, c'est que plusieurs personnes sont testées positives. On leur demande de rentrer chez eux sans aucune protection, sans aucun consigne, sans prendre aucune mesure. Et ces gens-là vont chez eux, continuent à visiter leur famille, leurs parents, leurs amis et même à participer dans des réunions comme si rien n'était. Si le monde entier, fortement, très mobilisé pour combattre ce fléau, ce qu'il a trouvé très mortel. Il faut que donc le gouvernement burundais prenne conscience de ce fléau. Il continue à nier qu'il n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus au Burundi. Parce que tout simplement, depuis le début de l'épidémie, le gouvernement burundais a choisi la voie du déni en refusant de reconnaître qu'il y a le coronavirus. En disant, plutôt en clamant haut et fort, que Dieu protège les Burundais, comme si ce Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde, de tout ce monde-là qu'il a créé. C'est devenu donc une politique, une façon de faire une grande propagande. On sait que le Burundi n'avait pas suffisamment de moyens pour faire face à ce fléau. Aujourd'hui, ils vont se réveiller très tardivement. Même quand ils acceptent de commencer à faire le vaccin, alors qu'ils avaient catégoriquement refusé le vaccin, ils doivent trouver des manières de dire « Nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas accepté ce vaccin. » Comme si il en pouvait en être autrement. Dans tous les cas, tôt ou tard, ils sont obligés de le faire. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, le pass sanitaire, ou ce qu'on appelle communément le passeport sanitaire, va être obligatoire pour pouvoir voyager dans le monde actuel. Et presque dans tous les pays du monde, les avions vont commencer à l'exiger. Est-ce que les Burundais opteront pour ne plus quitter le Burundi, rester figés au Burundi? Les hommes d'affaires, mais aussi les politiciens, les membres du gouvernement, vont rester à la maison, vont rester cloîtrés chez eux, sans pouvoir voyager. Ça, c'est une question aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on sache, lorsqu'un pays est attaqué par une force extérieure aussi terrible que le COVID-19, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le ministre de la Santé, ce n'est aucun autre ministre qui se lève pour donner des ordres. C'est le président lui-même qui doit se lever.
Le 13 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des gauchers, une journée célébrée dans le but de sensibiliser la population aux droits des gauchers contre la discrimination et la stigmatisation. Selon le professeur psychopédagogue Charles Nditije, naître gaucher n'est pas un problème, ce n'est pas un handicap de naissance ni un handicap acquis, dit-il. Il invite les parents et certains enseignants de laisser la liberté à l'enfant d'utiliser la main ou le bras qui lui convient afin d'éviter de le perturber psychologiquement. On l'écoute.
Dans la tradition burundaise, il y en a quand ils cultivent ou quand ils utilisent la roue ou une machette pour couper. Il y en a qui sont droitiers ou gauchers et ça ne pose pas de problème. La seule exigence, c'est de saluer les gens avec leur bras droit. Là où ça pose problème, c'est surtout au niveau scolaire. Parce que par méconnaissance ou par tradition, certains enseignants exigent que tous les enfants écrivent de la main droite, alors que tout le monde n'est pas droitier. Ce qui fait que ceux qui sont gauchers sont maltraités, on les frappe et on exige d'eux d'utiliser le bras droit pour écrire. Et cela les perturbe sur le plan psychologique et sur le plan comportemental. Et cela peut affecter leur intelligence ils peuvent ne pas maîtriser l'écriture parce qu'on exigeait d'eux qu'ils écrivent avec la main, le bras qui ne leur convient pas. Et cela peut conduire à des échecs parce que quand le développement psychomoteur est perturbé, il y a des conséquences sur le plan intellectuel, sur le plan de l'intelligence. Et cela peut nous conduire à des échecs, voire même à des abandons scolaires et même perturber le comportement de l'élève. Donc, faut pas les stigmatiser, il faut plutôt détecter, tester quel est le bras le plus habile pour chaque élève et le laisser utiliser le bras qui lui convient naturellement.
C'était le professeur psychopédagogue Charles Nditidje et c'est par là que se ferme ce journal. Merci bien pour votre fidélité à la radio Nzamba Agathe Kakaoué. Au revoir et à la prochaine.